approvisionner en priorité. Au Sénat, les débats sur le texte de la réforme des retraites avancent à vitesse grand V. Après la décision du gouvernement de recourir au vote bloqué, il reste quelques amendements à examiner. Le vote devrait avoir lieu cet après-midi et la date de la commission mixte paritaire qui comprend 7 sénateurs et 7 députés est déjà fixée. Ce sera lundi matin à 9h. La commission doit concilier les deux versions du texte votées à l'Assemblée et au Sénat avant une adoption définitive de la loi.
Samedi soir sur France Inter, Indochine en live au studio 104. Avant sa rénovation intégrale, le mythique studio 104 de Radio France accueille un dernier événement. Indochine casse le 104. Un concert exceptionnel en partenariat avec le quotidien Direct Soir à suivre sur France Inter samedi à partir de 22h. Nous autres, Zoé Varier.
Ne l'embauchez surtout pas. Il n'est pas dynamique et il n'a pas envie de réussir.
Il y a de ça.
Au contraire. Depuis 8 ans, Julien Prévieux refuse tous les emplois et s'amuse à écrire des lettres de non-motivation.
Chacun peut le faire, quoi. Quand vous sentez que ça devient trop aberrant, on n'est pas obligé de jouer le jeu.
C'est jubilatoire, hilarant, féroce et quel plaisir de dire non.
Nous autres, ce soir, à partir de 20h.
France Inter.
La différence.
15h05 sur France Inter, on retrouve Daniel Mermet là-bas si j'y suis.
En raison d'un mouvement de solidarité avec les syndicats en grève à Radio France contre la réforme des retraites, nous n'écoutons pas les émissions cependant diffusées. Nous n'avons pas d'excuses à vous présenter.
Nous sommes pacifistes. Nous sommes pacifistes. On défend le corps de Montréal. Nous sommes pacifistes. Nous sommes pacifistes. Nous sommes pacifistes.
Oui, salut, c'est Mickaël. Donc on est à Cournon, à côté de Clermont-Ferrand. Là, on bloquait un dépôt de grande distribution. Donc les CRS viennent de nous déloger. On était pacifistes. Ça ne les a pas empêchés de nous mettre quelques coups de genoux. Mais voilà, donc on a reculé de quelques mètres et le train va sûrement pouvoir passer. Voilà, donc on occupait tranquillement et ils ont chargé avec les genoux aussi. Donc bon courage à tous et puis que ça continue. Allez, ciao.
Quand j'entends ça, Daniel, tu vois, quand j'entends ça, ça me rend dingue, quoi. C'est-à-dire, je viens d'entendre encore le flash de 11h, une fois de plus, la dénonciation du fait que les pouvoirs publics ont envoyé les forces de l'ordre pour débloquer les raffineries, et que le ministre du budget qui est impliqué dans des affaires pas très claires, c'est le moins qu'on puisse dire, de magouilles financières, viennent invoquer l'application des lois de la République. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans la bouche de ce mec, dans la bouche de Sarkozy, dans la bouche d'Hortefeux, d'Alliot-Marie, de tous ces gens-là, de Fillon? Qu'est-ce que ça veut dire l'application des lois de la République? Qu'est-ce que ça veut dire les lois quand ce sont des gangsters qui les invoquent? C'est ridicule.
Salut Daniel, c'est Jean-Baptiste à Lyon. Je suppose qu'il y aura des appels sur ton répondeur déjà pour ça, mais je tiens à témoigner que de ce qui s'est passé hier à la place Bellecour à Lyon, où à 14h, 500 personnes ont été subitement bouclées sur la place, qui qu'ils soient hein, d'ailleurs, des gens qui étaient là, tout le monde a été bouclé par les CRS, par un dispositif ahurissant avec le GIPN, l'hélicoptère et tout ça. Ensuite, ils ont un peu été triés sur des critères que je ne connais pas et qui n'ont pas été communiqués par les forces de l'ordre. Et ensuite, tirés au canon à eau, flashball, bastonnade, gazage et tout ça. Un bon petit défouloir pour nos amis les bleus. Face à des gens qui étaient là, qui n'avaient que leurs mains et qui ne pouvaient pas fuir hein, vu qu'ils étaient prisonniers de ce truc-là. Personne n'en parle. Comment ça se fait? Comment ça se fait?
Oui, salut, c'est Thierry de Perpignan. Donc il y a peut-être des endroits où le mouvement faiblit, mais ici, il y a à peu près 3 manifs par semaine, il n'y a jamais eu autant de monde dans les rues. Il y a des actions de blocage sur les raffineries, les ronds-points, quasiment, il y en a, je sais pas, 4 par jour. La police est complètement débordée, et on lâche rien. Et la parole est aux étudiants aujourd'hui dans la rue, aux lycéens, ils sont, je sais pas, au moins 1000 ou 2000, ça fait 2-3 manifs qu'ils font, là. À bientôt.
Salut Daniel, c'est François. Bah écoute, là on est à 4 enfermés dans une bagnole à Amiens dans la nuit, il est 1h du matin. Et en fait, il y a une bagnole de la police municipale devant nous qui nous bloque. Et il y a une bagnole de la BAC, de la brigade anticriminalité, sur notre gauche. Et pourquoi on est arrêté? On est arrêté parce qu'on a écrit deux lettres et demie sur la voie. C'est BL et la moitié du haut. Et BL, la moitié du haut, c'est le début de blocage zone. Blocage zone parce qu'on indique la direction où se trouve le blocage de la zone industrielle. Zone industrielle d'Amiens qui est bloquée depuis ce matin. Ça va faire 24 heures qu'elle est bloquée. Elle va encore l'être pour 24 heures au moins. Procter & Gamble, les chaînes ne sont plus approvisionnées parce qu'il y a le blocage des marchandises. Valeo, c'est en voie de se passer. Bref, toutes les boîtes de la zone industrielle sont en train de voir leur ligne de production bloquée. Les copains de la CGT qui sont là-haut sont hyper motivés. Et puis nous aussi, enfin, on attend qu'ils libèrent nos camarades. Pas vrai, les copains?
Libérez nos camarades! Libérez nos camarades!
Bon, voilà, Daniel, c'était en direct, Damien. On va voir si la police municipale vient nous ramener nos papiers, nous avise, nous emmène au poste. Tu vas avoir la réponse en direct. On nous remet nos pièces d'identité et on ne nous emmène pas au poste, là, apparemment. Merci.
Merci. Il y a juste à relever notre identité, puis voilà, on va juste faire un écrit.
Très bien.
Merci.
Je vous remercie. On vous souhaite une bonne fin de soirée. Au revoir, bonne nuit.
Bonne nuit.
Donc voilà, Daniel, tu as eu la réponse en direct. Et là, bah, donc, on va démarrer la voiture et on va remonter à la zone industrielle. Salut, Daniel. À tout de suite. Salut, Daniel. C'est François. Bah, tu vois, j'ai plus de voix. Là, après deux jours et donc la deuxième nuit entamée de blocage de la zone industrielle, il n'y a plus aucune boîte qui tourne sur la zone industrielle d'Amiens, donc les plus grosses boîtes de Picardie, Procter & Gamble, Eurolisine, Goodyear, Whirlpool, pas Whirlpool, Dunlop. Et là, on est en train de suivre, là on court, derrière un bataillon de bleus, parce qu'il y a 500 personnes rassemblées sur le rond-point. Des étudiants à recours, des étudiants, des camarades de Goodyear.
Et des journalistes militants.
Et donc des éducateurs et ainsi de suite. Il y a les CRS qui sont en formation. Voilà, donc là, les CRS se mettent en position sur le rond-point de chez l'oncle Sam. Ça y est, Daniel, ça y est, ça pète sur la zone industrielle d'Amiens Nord. Je suis à côté du conseiller général communiste Gérald Mest. Vous avez souvent vu péter des choses comme ça sur la zone?
Non, jamais. C'est une première, hein.
C'est une agression. Une ouais. Agresse.
Il y a environ 500 personnes, ce qui doit déjà être assez rare, vu que la zone était écartée de 4 km. Et là, on est en train de jouer les barricades. Au milieu
là, c'est 68, là. Hein. Hein là, c'est vraiment du 68, là. Ils sont trop pouilleux pendant 500 manifestants.
Je crois que...
Les forces de police reculeront. Ils sont derrière, c'est une trentaine, c'est pas plus. Le problème, c'est qu'ils ont des grenades, quoi.
Pourquoi on les prend pas par derrière?
Parce qu'on allume le feu, là. Sinon, s'ils viennent par derrière, ils vont. On allume le feu, là-bas. Là-bas, ça s'enflamme, là-bas.
Là, les... Ah. C'est les salariés, là maintenant c'est les salariés qui avancent. Pardon ?
Je dis faut pas frotter les yeux, il y en a sur les vêtements du produit lacrymogène, donc il faut laisser pleurer les yeux pour faire partir le produit.
Voilà, c'est parti là. Ils arrivent de l'autre côté. Ils arrivent par ici. Et on court dans les graviers pour échapper aux bombes lacrymo, aux fusils lacrymogènes. Faut qu'on se retrouve à un point. Faut qu'on se visse à notre point de rendez-vous. Salut Daniel, c'est François. Bah écoute, toujours sur la zone d'Amiens Nord, en fait là, il y a les flics en face et il y a deux routiers qui ont mis leur camion de travers pour empêcher les charges de CRS. Pourquoi vous avez mis votre camion de travers là?
Ça va ajouter la population. La manifestation.
Pour aider la manifestation?
Oui.
Et pourquoi vous voulez aider la grève?
Parce que la police a sali les pompes, là, non? Comment se dit en français, c'est masse ouvrière?
La masse ouvrière.
Voilà. Per non essere aggredite perché è plus le lacrimogene.
Par solidarité ouvrière.
Voilà.
Et solidarité internationale.
Humanitaria. Internationale.
Ok, merci beaucoup. Merci. Et on pourrait faire une acclimation pour le routier qui a mis ses camions de travers quand même.
Ouais.
Pour le routier italien, il est vive.
Ouais.
Et voilà. Il y a des tranches ressorts à la lutte des classes, tu vois, quand c'est les camionneurs qui mettent en traviole leur chargement alors qu'ils sont italiens, qu'ils sont bloqués sur la zone depuis 48 heures. Le mec, il pourrait être vénère parce qu'il est bloqué à l'intérieur de la zone. Et non, il n'est pas vénère. Il soutient les travailleurs français. Il met ses camions en travers, Daniel. C'est formidable. Salut.
Voilà des échos de François Ruffin dans la zone Amiens Nord, des messages qu'il a laissés dans la boîte vocale de là-bas si j'y suis, avec cette image assez formidable quand même de ce routier italien qui met son camion en travers. Vous voyez, il y a ce journalisme là, et puis il y a un autre journalisme, celui de Monsieur Pujadas, qui le 12 octobre demandait à Bernard Thibault, je cite, « Avec cette culture du blocage, ne craignez-vous pas d'être la risée de l'Europe ?» Une question posée par Pujadas. Ben voilà une réponse, celle de ce routier italien qui met son camion en travers dans la zone d'Amiens Nord. Mais nous avons d'autres journalistes intrépides là-bas, si j'y suis. Julien Brigaud était hier et ce matin, eh bien, à Grandpuy. Et ce matin, vous le savez sans doute, la raffinerie de Grandpuy a été évacuée et réquisitionnée. Et c'est ce que nous allons vivre aujourd'hui ensemble avec ce reportage de Julien Brigaud. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bassie Gissou au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel, je viens d'entendre Monsieur Wörth. Ah, quelle arrogance! Quelle arrogance! Nous ne céderons pas aux actions de la rue. Mais qu'est-ce qu'il se prend, lui? Il n'aura pas de difficulté pour aller jusqu'à 70 ans. Hein, il aura des facilités, au contraire, avec tous les sous de Madame Bettencourt. Non, ben bravo aux jeunes qui viennent dans la rue. C'est des enfants responsables. Les casseurs, on n'est pas d'accord avec eux, ça c'est sûr. Mais que font les policiers, les CRS, les gendarmes? Hein, ils peuvent pas arrêter sans casseurs. Non, non, non. Ça, c'est bien voulu. Eh bien, bravo, bravo à eux. Continuez les jeunes et bravo aux travailleurs. Je suis dans la manif tout le temps et j'ai 77 ans. Merci, Daniel.
Bonjour, Daniel. C'est Victor de Madrid. Nous écoutons avec plaisir ton programme, d'autant plus que dans la radio espagnole, une émission comme celle-ci est impensable. Nous sommes de tout cœur avec le peuple français qui proteste contre la réforme de la retraite. Ici, le gouvernement socialiste essaie de faire passer les mêmes réformes et la grève générale qui a eu lieu le 9 septembre ne suffira pas à l'arrêter. Mais je suis optimiste. On se réveille et le mouvement dans plusieurs pays européens peut annoncer le début d'une période nouvelle de lutte contre le néolibéralisme et le capitalisme. Bon courage et merci pour ton émission.
Salut Daniel, salut les AMG. J'ai un petit son à vous faire écouter là. J'ai entendu ça sur le journal de 13h de TF1 du 20 octobre 2010. C'est Brice Hortefeux, écoutez bien.
Car l'immense majorité n'a pas à subir la loi d'une minorité.
Il parle de quoi là? L'immense majorité c'est le peuple français, c'est ça? Et l'infime minorité c'est l'oligarchie au pouvoir? Je sais pas, faudrait qu'on m'éclaire.
Ouais, bonjour Daniel, bonjour à tous, voilà, on est à Lyon là, on est des étudiants, on est des lycéens, on est tous près de la rue de Bellecour et voilà, ça fait 4 heures qu'il y a des camarades à nous qui sont sur la place en train de se faire gazer, en train de se prendre des coups de jet d'eau, de camions à eau, et voilà, et nous on est là, il y a des sticks de partout, il y a des rangées de terrestres partout, ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup. On doit partir en manifestation à 14h, ils ont séparé la manifestation. Et ils ont laissé un groupe sur la place, voilà, et là ils sont là. Et nous on attend devant et on est en train de les voir se faire gâter. Et voilà, ça fait chier. Donc faut que tout le monde vienne voir à Lyon ce qui se passe là. Arrêtez les médias, regardez ce qui se passe vraiment, ce qu'ils appellent émeute ou casseur ou je sais pas quoi, mais venez voir ce qu'ils leur font quoi. Au milieu là-bas, il y a des gamins, il y a des dames, il y a tout. Venez voir, c'est grave ce qui se passe en France là, c'est grave ce qu'ils sont en train de nous faire. Voilà, bonne journée à tous, bonne manifestation. Et écoutez, voilà, c'est ça. À bientôt.
Bonjour Daniel, bonjour à tous. Ben, je voudrais juste dire à ceux qui se demandent comment ça se fait-il qu'on n'entend plus parler de menaces terroristes là. Eh bien, sachez que c'est tout simplement grâce à notre bon ministre Brice Hortefeux qui déjoue tous les attentats.
10 ans après l'an 2000, on vit dans des conditions d'existence épouvantables. Les gens ne se soignent plus. 13% des gens ne se soignent plus maintenant. Mais où on va? Où sont les promesses de l'effondrement du communisme? Qu'est-ce qu'ils ont fait de cette soi-disant grande victoire sur une société qui voulait tout collectiviser? On atteint bientôt 4 millions de chômeurs, un chiffre record. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tronche?
Info économique entendue hier, Nokia, le célèbre fabricant de téléphones, va licencier 1700 personnes dans le monde, alors qu'ils font un bénéfice à deux chiffres, et instantanément, la bourse, l'action Nokia a augmenté de 8%. Voilà, donc je transmets ça aux gens qui sont encore pour le libéralisme et qui ne voient pas que le libéralisme est un cancer qui va tout détruire sur cette planète, les gens et la nature. Merci, au revoir.
On se retrouve demain samedi à 15h30 pour le repère de Montauroux aux Estérés du Lac, au lac de Saint-Cassien, chez Hervé et Marif. On y parlera bien sûr de l'activité sociale, on y parlera des différentes grèves qui ont lieu en ce moment et dans lesquelles on est impliqué. Et on y parlera aussi du renouveau du comité d'initiative citoyenne, cette association de gauchistes qui se bougeait il y a quelques années, qui était un petit peu en sommeil, et avec toutes les manifs et tous les mouvements. Il y a plusieurs personnes qui pensent que c'est peut-être nécessaire de le remettre à flot aujourd'hui, donc on en parlera demain à 15h30 au repère de Montauroux. Et rappelez-vous les propos de Ramayad, on n'attrape pas les jeunes avec du vinaigre, à méditer. Ciao, viva, portez-vous bien.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Julien Brigaud, Vincard pour Dilascar, la réquisition.
Mercredi 20 octobre.
Il est 6h30 du matin, on est juste en face de la raffinerie de l'Île-de-France à Grand-Puy, à environ 60 km au sud de Paris. Il fait froid, on est là. Il y a des caméras partout, les journalistes de BFM, de ITV et de Canal+, ont levé leur parabole. Nicolas Sarkozy, à Deauville, a fait une déclaration assurant qu'il allait débloquer par la force toutes les raffineries et tous les dépôts qui entraveraient à la liberté de circuler. Juste en face des grilles de l'entrée de la raffinerie, il y a un grand brasier avec des pneus prêts à brûler, des barrières qui bloquent l'entrée. Aujourd'hui, sur le grand panneau rouge, il y a des indicateurs avec marqué sécurité procédée, indicateur de performance du mois passé, perte de confinement 1, feu 0, fiabilité 99,9%.
Voilà, vous avez compris, c'est un endroit névralgique, stratégique. La raffinerie de Grand-Puy, en Seine-et-Marne, à 50 km à l'est de Paris. C'est un site total, c'est l'une des 12 raffineries de pétrole du pays et c'est un lieu qui est en pointe dans le mouvement actuel. Hier matin, parmi les nombreux journalistes qui étaient sur cette ligne de front, il y avait Julien Brigaud. Il est revenu ce matin, ou plutôt cette nuit, et cette nuit, c'était la charge, c'était la réquisition, et c'est ce que nous allons vivre ensemble. Je voudrais, l'autre jour, j'ai évoqué les éditocrates, les médiacrates qui sont très très loin. Ça rappelle d'ailleurs un petit peu le 2005, vous vous souvenez comment les médias, les gens des médias étaient très loin de ce que pensaient, souhaitaient et voulaient les Français par rapport au traité de constitution européenne. Là, c'est un peu la même chose. Et donc, j'ai fait cette critique. Et on a dit, ah oui, mais non, quand même, etc. Et je suis tombé sur quelques lignes dans un éditorial du quotidien Le Monde, le journal de référence français. Un édito daté du samedi 16 octobre 2010, où je lis les lignes suivantes. Une fois de plus, la contestation massive du projet de réforme des retraites illustre combien la France reste un pays très conservateur, arc-bouté au statu quo et aux droits acquis, l'histoire servant de paravent au réel. Fin de citation. Journal de référence français, quotidien Le Monde. Je ne pensais pas que je trouverais une phrase qui éterrait à ce point cette idée de la distance et de la fracture entre les élites médiatiques et ce qui se passe en ce moment, ce qui se passe là, ce qu'on va voir sous nos yeux et sous nos oreilles jusqu'à 16h dans la base, j'y suis, 20h pour 10 lascars, la réquisition.
C'est la colère des opprimés dans la rue, étudiants, cheminots et ouvriers. Tous ensemble pour défendre nos emplois, nos droits qu'ils voudraient nous supprimer. C'est la colère des opprimés dans la rue, étudiants, cheminots et ouvriers. Tous ensemble pour défendre nos emplois, nos droits qu'ils voudraient nous supprimer.
Ils veulent nous diviser en nous opposant les uns aux autres. Les jeunes contre les vieux, les travailleurs, ceux du privé contre les fonctionnaires. Mais on sera tous solidaires.
On en a ras-le-bol, le peuple a perdu espoir. Votre politique, vous voulez juste le pouvoir. On en a ras-le-bol, le peuple a perdu espoir. On croit plus en vos promesses pour accéder au pouvoir. On en a ras-le-bol, nous, on veut se faire entendre, se battre pour nos droits. T'inquiète, on va se défendre. Dans la rue, c'est là que ça se passe. On les dérange quand la marche solidaire est en place. Cette politique provoque de la colère auprès des nôtres. Et on essaiera de leur barrer la route. C'est ensemble qu'ils nous retournent.
Soyez bien sûr que ce seront vos salaires qu'on voudra réduire, vos emplois qu'on supprimera. Les compagnies ont l'argent, elles possèdent les machines. Mais n'oubliez jamais que c'est notre travail qui fait que tout leur train fonctionne.
C'est la colère des opprimés, dans la rue, étudiants, cheminots et ouvriers. Tous ensemble, pour défendre nos emplois, nos droits qu'ils voudraient nous supprimer.
Si nous refusons d'agir de façon isolée et dans l'individualisme le plus total, mais qu'au contraire nous unissons nos forces pour combattre tous ensemble, nous devons alors faire en sorte qu'ils nous traitent, non comme leurs propriétés, mais comme des hommes libres. Réfléchissez, mes camarades, c'est dans cette union que réside notre espoir et notre futur. C'est l'avenir même de nos enfants qui est en jeu.
Je suis Fabrice Hiron, je suis pupitreur chez Total. Si on ne travaille pas maintenant, de toute façon, si cette loi-là elle passe, à mon avis, tout reste derrière, ça suivra. Si les gens ne se battent pas pour la retraite, ils se battront pour rien d'autre. Donc il faut qu'ils en prennent conscience. C'est ce bras de fer-là qu'il ne faut pas perdre.
Le brasier est en train de prendre des hauteurs avec la fumée noire qui nous pille. Le soleil qui vient nous lécher.
Qui vient nous aider un peu, ouais. Ça va faire du bien.
Ça va faire du bien. Ouais. 72 heures quand même, c'est physiquement, ça doit être un peu dur, non?
Non, bah ça va, il a pas fait trop froid ces derniers jours. Ouais. Donc,
comment ça se passe alors concrètement? C'est des rondes? C'est comment vous alimentez? Comment vous dormez? Comment ça se passe là?
Ah bah ici, déjà on a des dons de nourriture de tous les gens de l'extérieur, on n'a rien acheté nous-mêmes. On a même des gens qui viennent tout seuls en pleine nuit nous amener un sac de nourriture, une mémé qui nous avait acheté des courses qui est venue nous apporter le sac, d'autres organisations, d'autres métiers qui nous apportent plein de courses. La France Télécom, je crois, ils ont fait tourner une enveloppe, on a eu 400-500 euros, on a eu RDF qui a donné des sous aussi, ça arrive de tous les côtés. On a des dons aussi bien d'argent que de nourriture, que d'eau, que du papier toilette, du chiffre à café et tout, tout nous est amené quoi, il y a une bonne solidarité. Là-dessus, on s'en sort. Après, bah, pour dormir, on a quelques lits de camp au chaud, donc on fait tourner les lits. Et puis bah, après, sinon, c'est dormir autour du feu, sur un siège. Après, ce qui va être dur, ça va être dans la durée, quoi. Il faut voir si ça dure, quoi.
Ça représente combien de pertes nettes par jour de salaire?
Aucune idée, j'ai pas calculé. Je verrai ça à la fin du mois, sur ma prochaine paye. L'argent, c'est comme tout, c'est le nerf de la guerre. Il y a des gens qui ne vont pas se faire grève et perdent 15 jours, une semaine de salaire. Il y en a qui ne pourront pas se permettre, je le conçois très bien. De toute façon, on est dans une société qui est faite comme ça. Donc, et c'est pour ça que les particuliers, ils ont du mal à se bouger. Quoi. Nous, on a même les entreprises ici extérieures, là, ils ont eu des menaces par la direction locale. Enfin, la direction locale a porté des menaces sur les chefs des entreprises extérieures pour leur dire, ouais, si on les voit avec les gens de Total, aux âgés ou devant les caméras et tout ça, la direction Total a dit, ben, on verra vos contrats. Alors donc, les chefs des entreprises extérieures, ben, ils mettent la pression sur leurs ouvriers. Limite, officieusement, ils n'ont plus le droit de grève. Alors déjà qu'ils ne se permettaient pas de la faire parce que financièrement, ils n'y pouvaient pas. Mais en plus, on leur met des menaces pour pas qu'ils soient avec nous. Ils peuvent même pas nous soutenir, quoi. C'est hallucinant, quoi, quand même. Et ça, c'est la direction Total. On aurait pu chez nous par hasard. Non, bah, venez pas chez nous par hasard. Venez chez nous pour faire la grève, pour nous soutenir.
Voilà, la lumière des feux, des braseros, cette raffinerie éclairée dans la nuit avec ses grévistes, avec les médias qui sont là, avec aussi les solidaires, avec ceux qui sont venus du coin, qui viennent apporter leur soutien, leur présence, d'autres militants, d'autres secteurs, d'autres grévistes. On dit, oh, y a plus de solidarité dans ce pays. Ben voilà, c'est possible en tous les cas. La solidarité est revenue en force et bien sûr, on attend d'un moment à l'autre le passage en force des promises et la menace du président de la République. C'était hier matin.
8h du matin, visage tiré, fatigué. On est autour du brasier.
Je travaille à Pôle emploi. Je suis à la CGT. Donc ben, on suit le mouvement de grève depuis le début. Ça me paraissait primordial d'être là. Par rapport à la suite du mouvement, je pense que c'est clairement sur les raffineries, les transports, que ça peut jouer, avoir du poids. Donc, comme beaucoup de gens, à bout de, de tout ce qui se passe en France depuis 3 ans et que cette réforme, c'était celle de trop. Et que je pense que ça joue là de toute façon et que le poids que la lutte a, c'est ici et dans les transports. Et donc, c'est hyper important d'être là, je pense.
Donc là, vous êtes avec vos collègues.
Voilà.
Voilà, donc moi de la territoriale.
Territoriale, d'accord. Ouais. Et vous, monsieur?
Moi, je travaille à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, donc c'est la sécurité sociale. Tout est lié, en fait. Hein. On veut tout privatiser, donc si on ne veut pas être les suivants, il faut qu'on soit là. Et si on lâche rien maintenant, derrière, on aura encore plus de poids pour combattre les autres choses qui nous attendent. Et on le sait déjà, mais voilà, il faut qu'on mobilise un maximum, aussi bien les populations que les salariés, que tout le monde, quoi, parce que tout le monde est concerné. Là, maintenant.
Donc là, on est juste en face de l'entrée de la raffinerie de l'Île-de-France. On a la CPM, vous, on a le Pôle emploi. Et vous alors?
Moi, donc, je travaille à la mairie de Varennes-sur-Seine. Je suis secrétaire général du syndicat CGT. Nos revendications sont les mêmes que l'a expliqué le copain. Bah, c'est la casse du service public dans sa grandeur, parce que France Télécom, ça existe déjà depuis des années. Aujourd'hui, ce qu'on voit, effectivement, c'est une destruction de l'être humain. On se sert de notre argent. Il faut quand même se rappeler dans l'histoire que notre salaire, il y a le salaire socialisé, il y a le salaire différé. Le salaire socialisé, justement, c'est pour payer les retraites, la sécurité sociale, la santé, le chômage, etc. Le salaire différé, justement, c'était pour faire du service public. Voilà. Donc, par le biais des impôts sur le revenu, etc. Aujourd'hui, donc, on voudrait nous faire croire qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, hein, qu'il faudrait à tout prix privatiser parce qu'on ne s'en sort plus. Sauf que nous, on est absolument pas d'accord, puisque en fait, on est en train de nous reprendre ce qu'on paye déjà. Donc on nous demande encore de repayer ce qu'on a déjà payé. Voilà. Donc c'est un peu toute cette mouvance qui se passe. Et si aujourd'hui, effectivement, on est là, et la territoriale, on est là aussi massivement sur Grand Puy, c'est effectivement pour être solidaire avec ces copains-là, et aussi pour leur dire que le service public est aussi avec eux, et qu'on ne lâchera pas, parce que c'est pas possible, quoi. C'est pas notre culture. En tout cas, nous, on est là pour faire barrage. On ira au bout. Hein.
J'espère qu'ils ont prévu des chaînes.
Sinon, on a des bons biscottos.
Si on était en métal, on se soudrait, mais non.
Charles Foulard, bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin en AG
Rien, ça a été calme. Ça a été calme puisqu'on est dans la continuité de la négociation qu'on a faite avec la direction. Donc pour l'instant, tant qu'on n'a pas d'événement nouveau, c'est-à-dire ce qu'on attendait cette nuit, qui était l'arrivée des forces de l'ordre, statu quo. Vous savez, on va en avançant dans un conflit social. On ne peut pas écrire l'histoire avant l'histoire. Et puis il faut s'adapter aux situations. Hein. C'est ce qui s'est passé dimanche. On s'est adapté et je dirais que... On n'y serait pas arrivé si on n'avait pas eu le soutien que vous pouvez constater sur ce piquet de grève, puisque tous les camarades enseignants qui sont là, on a des jeunes, on a des cheminots, on a l'EDF, on a Air Liquide, bon, ça tourne, il y a les élus politiques qui viennent, il y a ATTAC. Je veux dire, c'est fort. Avec eux, ça nous porte. On n'a pas le droit d'arrêter avec ça. C'est impossible. Mais ce qu'on veut pas, c'est que ce soit une grève par procuration. Et bon, il y a les cheminots qui sont dans l'action, il y a des tas d'entreprises qu'on parle pas, parce que c'est sûr que nous, on est une activité stratégique, donc tous les médias sont sur nous, mais nous, on pense à tous les salariés dans ce pays qui sont actuellement en lutte, en mouvement, que ça soit avec des grèves de 8 heures, des voyages de 2 heures, là, j'ai discuté avec les camarades de la DDE, là, ils sont en lutte et on n'en parle pas. Et ils sont en grève. On va y arriver, ouais, on va y arriver. Mais il faut que ça monte, Sur tous les sites, c'est la même chose. Je suis en contact permanent avec nos syndicats sur place et qui le disent. Ils ont la même chose qu'ici. Des salariés de tout horizon, des citoyens qui viennent porter leur soutien. Vous avez vu, la tente, elle est alimentée constamment. On peut tenir un siège. Je veux dire, voilà.
Qu'est-ce que vous pensez du traitement médiatique du mouvement social?
De plus en plus, tous les conflits sociaux sont fortement médiatisés. On va pas se voiler la face, je veux dire. C'est un atout, mais ça peut des fois, être à un certain moment, se retourner également contre le mouvement. Mais il est évident que là, dans une situation de crise comme on est, avec une menace d'intervention des forces de l'ordre, il est évident que l'approche, que ça soit du côté patronal ou du côté de la force publique, c'est pas la même chose lorsque le conflit est couvert médiatiquement. Alors ceci dit, arrivé à un certain moment, là aussi vous pouvez vous faire instrumentaliser, non pas par nous, mais par le gouvernement, qui pourrait à un moment donné choisir réellement la manière forte, même sur les raffineries, et de le passer pour le monter au pays, en image. Voilà, donc on va pas se tromper, quoi. Je veux dire, vous avez votre déontologie, hein, qu'on conteste pas, mais il est vrai que pour le moment, au niveau auquel on est dans ce conflit, il est clair que votre présence, pour nous, est quand même un rempart à la matraque. Jusqu'au moment où le pouvoir peut avoir besoin d'une image forte de répression. Et là, dans ce cas-là, c'est vous également qui servez de... Voilà.
Je pense par exemple au journal télévisé de France 2, par exemple, systématiquement, les journaux débutent par les usagers pris en otage, les files d'attente interminables, et finalement les grévistes qui bloquent le pays.
Vous savez, ça c'est une arme de communication du pouvoir. Ce mouvement social est soutenu, plus de 70%. Il est bien évident que là, maintenant, on est dans une phase où on pèse sur l'économie, et on pèse sur les automobilistes, on les contraint à... peut-être demain à être en vélo, il est évident que le pouvoir s'en sert comme arme de communication pour inverser l'opinion publique. Mais c'est factuel, je veux dire. Ça, on n'a pas la recette. Hein. On n'a pas la recette pour un moment que ça ne s'inverse pas. C'est un risque de tout conflit social de cette envergure. Et les cheminots y ont été confrontés, les routiers en son temps y ont été confrontés, les dockers y sont confrontés. C'est comme ça. On est en plein dans la bataille des idées. Vous voyez, dans ce dossier des retraites, on est dans la bataille des idées. La bataille des idées est un enjeu de société. Quelle société pour demain? Comment on finance la protection sociale? C'est des enjeux de société. Quelle politique sociale? Quelle politique de l'emploi? Quelle politique industrielle? On est en plein dans les questions de fond. Ouais.
Bonsoir Fanny Stenler, vous êtes en direct près de Melun.
France 2, 18 octobre 2010.
Sur l'autoroute A5, à une trentaine de kilomètres de Paris, que voyez-vous? Que se passe-t-il autour de vous?
Eh bien écoutez, ici la file d'attente part de la bretelle d'autoroute qui se situe là-bas, fait tout le tour du rond-point et va jusqu'à la station-service. Cela représente environ 300 mètres de file d'attente. Alors ici, je peux vous dire que plus on se rapproche des pompes à essence, plus les mâchoires sont crispées et le regard sombre. Il y a environ une heure de file d'attente. Alors on va demander à cet automobiliste comment ça se passe ce soir pour lui. Bonsoir monsieur, nous sommes en direct sur France 2. Est-ce que je peux vous demander comment ça se passe pour vous ce soir?
Bah écoutez, un peu galère, il faut bien travailler, hein, il faut bien du carburant. Et puis ben voilà, on fait la queue pour pouvoir aller bosser demain.
Voilà, en tout cas, je peux vous dire qu'ici, chacun croise les doigts pour arriver à temps à la station-service et avoir du carburant et ne pas se retrouver à nouveau devant une pompe à sec.
Vendredi 22 octobre.
À la une de l'actualité ce matin, la mobilisation des syndicats qui ne faiblit pas. Il y aura donc deux nouvelles journées d'action contre la réforme des retraites, le jeudi 28 octobre et puis le samedi 6 novembre. Les syndicats restent donc et apparemment très déterminés, mais avec une question: jusqu'à quand? La veille des vacances de la Toussaint, l'autre grande interrogation ce matin concerne la pénurie de carburant et l'impact sur ces vacances. Au moins un quart des stations sont en panne à la veille donc de ces départs de la Toussaint. Les pouvoirs publics ont réquisitionné tôt ce matin, au nom des intérêts de la défense nationale, la raffinerie de pétrole en grève de Grand Puits, c'est en Seine-et-Marne.
Tu la vois là, la raffinerie?
Non.
Elle est juste à droite.
Ah, c'est celle-là?
Ouais.
Ah bon, tu reconnais? Donc tout va bien?
Tout va bien, ouais.
Moi j'ai cherché, mais si tu reconnais, c'est bien.
C'est un énorme immeuble qui scintille de mille feux avec de la fumée qui sort.
Au nom des intérêts de la défense nationale, vient de dire le confrère journaliste qui s'inquiète beaucoup de toute cette agitation par rapport aux vacances, on vient de nous le dire, arme de communication du pouvoir, souvent, les médias, mais pas seulement, il arrive que nous soyons aussi un rempart à la matraque. Ce matin, Julien Brigot était sur le site de Grand Puits, ce matin, vendredi 22 octobre 2010.
Bonjour Fabrice.
Bon bah j'ai bien reçu ton message.
Bon bah tant mieux.
Tu peux m'expliquer comment ça s'est passé pour toi?
Pour nous, tout simplement, quand on n'était pas nombreux au moment où ils sont arrivés, on était une dizaine et on a vu les 10 quarts de gendarmerie mobile arriver, quoi. Et là, tout de suite après, le préfet est arrivé avec une autre personne que je connais pas, plus un commandant de la gendarmerie, qui nous ont expliqué qu'ils allaient rentrer pour réquisitionner des opérateurs pour ouvrir des vannes pour alimenter les quais de chargement. Ils sont partis voir nos collègues grévistes compétents en la matière, là, qui faisaient la nuit, là. Et donc, ils ont tout simplement réquisitionné. Ils ont réquisitionné le personnel et ils obligent le personnel à travailler, quoi. Donc, tout le monde a réquisitionné.
Parmi les réquisitionnés, il y a des grévistes?
Ah oui, puisqu'on est tous grévistes. Donc les réquisitionnés sont tous grévistes.
Mais alors comment on peut réquisitionner des gens qui sont en grève?
Ah, grâce à Sarkozy qui a fait passer sa loi hier. C'est comme ça. Il estime avec son papier qu'on n'approvisionne pas les services d'urgence ou tout ça. Chose que l'on fait depuis le début. Les hôpitaux, même la police qui sont venus ce soir, la gendarmerie, tout ça. On les alimentait, lui il estime qu'on est en guerre et qu'on met la France en péril, qu'on a des risques d'émeutes. Alors que pour moi, les risques d'émeutes viennent plutôt de la manière d'agir de Sarkozy, quoi. À mon avis, c'est lui qui est en train d'enflammer le pays et j'espère qu'on va avoir un mouvement de population dès ce matin et qu'on va bien le montrer. Rééquilibrer le rapport de force, parce que là, 20 quarts pour 10 lascars, ça fait beaucoup. Donc venez nous aider, venez.
Il est 5h20 du matin, je viens d'arriver à la raffinerie de Grand Puits. Les panneaux rouges indiquent toujours que la fiabilité de la raffinerie est de 99,9%. On va se rapprocher de la raffinerie. Charles Foulard.
Il se passe, je me trouve actuellement sur le site de la raffinerie de Grand Puits, dans lequel les salariés exerçaient librement jusqu'à présent leur droit de grève constitutionnel, et que le gouvernement, par la voix du préfet de Seine-et-Marne, avec l'aide des forces de gendarmerie, vous avez pu constater de vous-même le nombre de gendarmes présents sur le site et autour du site. Tout était quadrillé autour de la raffinerie. Il nous a été signifié la réquisition du personnel et de l'établissement. Nous savions qu'en cas de guerre, bien évidemment, pour la défense nationale, on peut réquisitionner une raffinerie. Mais là, qu'on sache, nous ne sommes pas en droit de guerre. Donc monsieur Sarkozy, sous couvert de remettre le carburant dans les véhicules des citoyens, en fait, veut surtout remettre du pognon chez les puissants.
200 gendarmes mobiles, d'un coup.
Ah bah oui, il y avait partout. Partout, il y avait. Partout, ils avaient tout quadrillé. Pour rentrer, il a fallu qu'on monte pas de blanche, et ça, il a fallu parlementer.
C'est le préfet qui a donné l'ordre de réquisitionner.
Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Il n'a pas répondu à nos questions. Nous lui avons demandé comment on exécute nos droits de grève. Il n'a pas répondu. Bah oui, parce qu'il est quand même représentant de l'État. Donc je lui ai demandé, en tant que représentant de l'État, comment on exécute notre droit de grève librement. Il m'a dit, vous êtes réquisitionné. Je lui ai dit, on a entendu, mais comment exerce-t-on le droit de grève? Pas eu de réponse.
Pas eu de réponse.
Voilà, on en est rendu.
Je ne peux pas accepter qu'on prenne en otage le travail de millions de Français,
Nicolas Sarkozy,
qui ont le droit de trouver de l'essence dans des stations d'essence pour aller à leur travail et pour vivre leur vie quotidienne.
21 octobre 2010.
Je comprends parfaitement que tel ou tel soit opposé à notre projet de réforme des retraites. Je comprends parfaitement qu'on soit en grève. Je comprends. Tout ceci, ça fait partie des droits. Il n'y a pas lieu de s'en formaliser ou de le reprocher. Mais on n'a pas le droit de prendre en otage des gens qui n'y sont pour rien. Et l'entreprise qui n'aura plus de fioul, l'entreprise qui n'aura plus de bitume alors qu'elle travaille dans les travaux publics, l'entreprise qui ne pourra plus avoir ses livraisons, elle va fermer. Et c'est encore une fois les petits qui vont trinquer pour les autres. Donc mon devoir, c'est de faire en sorte que ça fonctionne. On ne peut pas être le seul pays au monde où, quand il y a une réforme, une minorité veut bloquer les autres. Ce n'est pas ça la démocratie.
Tout le monde commence à se mettre en place. On va essayer de retrouver Fabrice.
J'espère qu'ils vont charger pour voir.
Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous avez bloqué exactement?
On va bloquer la relève montante, le car qui doit relever les gars à l'intérieur.
Excuse-moi, est-ce que je peux me greffer à vous?
Oui.
Merci. Voilà,
on est enchaîné maintenant.
Voilà.
Ça y est. Voilà, là on va être en plein dans les caméras, là, en ouais, première ligne.
En première ligne, ouais. Ah, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, surtout après tout ce qui se passe, les lois et tout ça, les droits de grève. C'est hallucinant. J'y crois pas.
Démission Otero ! Démission Otero ! Démission !
Camarades, je pense que vous êtes au courant, en plus, dans les moments que nous traversons, qu'une autre raffinerie de France, la raffinerie de Petroplus Rechtet, est frappée de fermeture et de transformation en dépôt.
Notre raffinerie après la raffinerie des Flandres.
Ouais. En plein mouvement social dans ce pays contre la réforme des retraites, le pouvoir politique, parce qu'il est responsable, lui qui avait dit qu'il était attaché à son raffinage, et bien nos camarades de la raffinerie de Rechtet, Petroplus, hier, en CE, se sont vus signifier la fermeture du site et la transformation en dépôt. Quelle confiance pouvons-nous avoir dans nos patrons, dans ces tauliers à la botte du capital? Quelle confiance pouvons-nous avoir dans ce pouvoir politique? Monsieur Estrosi, rappelez-vous, monsieur Estrosi, qui devant les chaînes de télévision avait dit qu'il sauverait Dunkerque. Dunkerque, Petroplus Rechtet, et après c'est le tour à qui? Résistance!
Ouais!
Otero!
Démission!
Otero!
Démission!
Sarkozy!
Démission!
Sarkozy!
Enculé! Démission!
Fillon!
Démission!
Fillon!
Démission! Démission! Démission!
Il est 8h20, les CRS n'ont toujours pas chargé. Alors la chaîne citoyenne, c'est le barrage, le bouclier humain, c'est quelque peu dessoudé. Ils oscillent entre l'accablement, la colère, la fatigue, l'amertume, la haine. Tu veux un peu de café, Fabrice? Je vais t'en chercher. À chaque fois que tu veux boire un café...
Ouais, ils arrivent. Mais quoi, il fait tout pour me faire chier.
Le directeur de l'usine est arrivé. Il est parti parler aux délégués CGT.
Je vais prendre le micro.
Il est monté sur le perron, juste en face du local de la CGT. Le CGT est monté, il a pris...
Messieurs, dames, la direction vient de redescendre de ses locaux afin de faire constater par l'huissier ici présent que les salariés réquisitionnés par le préfet ce matin sont bien grévistes. Alors, pour être très clair, est-ce que tous les salariés réquisitionnés à ma gauche sont grévistes? Ouais. Monsieur l'huissier, nous sommes en phase? Est-ce que les salariés grévistes réquisitionnés acceptent leur ordre de réquisition? Oui. Y en a-t-il qui le refusent? Maintenant, je m'adresse à la barrière citoyenne composée d'élus, composée de salariés Total, composée de salariés d'autres corporations et de citoyens. Acceptez-vous que les salariés grévistes réquisitionnés prennent leur poste de travail? Grève générale! Grève générale! Grève générale!
parce que proche du directeur de l'usine, qui est à côté de l'huissier qui est en train de noter. Il est 8h30. Il y a des cheminots, il y a des chômeurs. Beaucoup portent le petit drapeau blanc en signe de résistance pour marquer le statut de gréviste protégé par la Constitution. La chaîne humaine se reforme. En première ligne, Fabrice, avec son chasuble jaune, barré de l'institut cible CGT. Bon, Fabrice, cinquième tentative de...
Ouais, mais là, je crois que ça va être vrai.
Je crois que c'est la bonne.
Ouais. Ah, ils sortent, ils sont sortis avec leurs boucliers là-bas au bout. Tu vois, ils sont passés par là.
Ouais, ils arrivent, d'accord. De CRS qui viennent d'arriver, ils portent leurs boucliers, ils se rapprochent des syndicalistes, ils avancent déjà en position défensive, ça ne saurait tarder.
Tous ensemble, ouais! Ouais! Tous ensemble, tous ensemble, ouais! Ouais! Tous ensemble, ouais! Ouais!
L'heure est grave, les forces de l'ordre vont essayer, j'ai bien dit essayer, de faire appliquer l'ordre de réquisition du préfet de Seine-et-Marne. Je vous demande de faire une chaîne citoyenne, une chaîne humaine. Nous ne sommes que les porte-parole du peuple et rien d'autre. En vous tenant par les coudes, afin que nous puissions être unis et faire face à cette attaque gouvernementale dans quelques minutes.
Les CRS sont plutôt des trentenaires, des jeunes quarantenaires.
La police avec nous, la police avec nous, la police.
Doucement,
douan, c'est pas la peine.
On est
vite
prisonniers, nous.
Les CRS sont repoussés en arrière.
Doucement, les gars, doucement.
Les gendarmes n'ont même pas l'argent de le charger des salariés contre les CRS, contre les gendarmes. Voilà, là ça charge. Les CRS battent en retraite. Hein. Les képis volent par terre, sont piétinés. Tous les salariés s'y mettent là, ils poussent les boucliers.
La police,
vos parents sont à la retraite.
Putain.
Votez-vous pour leur retraite, au moins.
Vous avez le droit de partir à la retraite,
dignement. On est tous dans le même bateau ou
pas?
Ça commence à frapper. Là, c'est matraque. Ça matraque de tous les côtés. Il y a 4 personnes à terre.
Reste à venir.
Donc là, les CRS sont à 5 mètres de la grille, de la barrière.
Arrive! Tous vos parents sont ouvriers. Passez-y. On est calme. On se défend. Vous n'osez pas nous regarder en face, les gars. Je sais que vous faites votre job. Bravo. Bravo, les gars. Bravo.
On bouge pas.
Bravo.
Vous n'avez pas honte. Vous êtes des fils de prolos, en plus, la plupart d'entre vous. Et vous êtes là. Vous battez contre le peuple, et vous êtes des fils du peuple. C'est un scandale. Vous n'avez pas de conscience. Il y a des gens qui sont morts pour votre liberté. Il y a des gens qui sont morts pour vos vacances. Et vous, vous les enterrez maintenant, une deuxième fois. Résistance.
Reculez.
Fabrice est en train de charger des pneus dans le brasier. Comment ça va, Fabrice?
Ça va, impeccable, nickel.
T'as pas eu de coups, t'as pas eu
Non, rien. Ça t'as des foules, regarde comment ils vont avoir chaud là, ouais. Avec les pneus.
Ouais, bah rien que un, on pouvait pas tenir là, finalement. Ouais. Là, il y a une dizaine de pneus sur le brasier là.
Et ils sont en plein, les vents, ils sont en plein sur eux. Ah, ça va être bon ça.
Un sourire, messieurs. Vite, bientôt il y aura de la fumée.
C'est un peu chaud là.
Ouais, c'est chaud. Ouais. Là, ils vont manger. Tu vois, pour ça, il fallait pas cramer tous les pneus. Regarde comment ils vont avoir chaud. Attends, moi je vais savourer
tout. Tu savoures ?
Ah ouais, ouais. Petite victoire dans cette bataille. Victoire.
Ouais ! Ils vont pas pouvoir rester avec la chaleur. Ils vont pas pouvoir.
Regarde, ils se reculent.
Ouais, là,
c'est... Vite, vite !
Alors, on attend des températures assez insupportables.
On se pousse! On s'écarte!
Les pompiers sont arrivés.
On a eu trois blessés.
Trois blessés là?
Ouais.
Injustice.
Ah ouais?
Voilà,
ouais,
petit mot.
Bon, allez! Et ouvrez-vous!
Partez pas, c'est le
pire
au soir!
C'est pas dommage! C'est le délégué CFDT qui
vous demande. Momentanément, fermez le portail, le compte incendie, merci!
Voilà, les réquisitionnaires rentrent. 2, 4, 6, 8, 10.
Merci les gars pour la nation.
14, 15. Voilà, il y a une bonne vingtaine. Derrière la grille de la raffinerie, on a un petit groupe de réquisitionnés, donc ils sont là, ils attendent les instructions. Des manteaux tout froissés, tout crasseux, tout noircis par l'affrontement qui vient de se produire là. Les salariés vont, sous le coup de la loi et sous le coup de la force, vont devoir remplir des camions d'essence. Puis là, juste en face de nous, c'est un paysage de bataille. Voilà, on a des drapeaux cassés, on a des chasubles éclatées, on a tous les petits morceaux de tissu blanc que les grévistes portaient autour de leurs bras. Il y en a un bon paquet qui sont par terre, là, souillés.
Nous allons déjà nous réunir entre nous.
Charles Foulard donne ses interviews.
Vous avez vu le déploiement de forces de l'ordre. La réquisition est effective. Nous allons porter le dossier devant le tribunal de Melun parce que sur un tel dossier, ça nous paraît quand même plus que litigieux. Utiliser les articles du Code de la Défense nationale pour réquisitionner des salariés de droit privé. On n'avait pas compris qu'on était en guerre. On n'avait pas compris que l'aéroport Charles de Gaulle était un aéroport militaire. Et quand vous voyez que ce genre de réquisition, c'est les expéditions de tout produit, y compris du bitume, on voit pas bien ce que vient faire l'urgence pour le pays de mettre le bitume en service, si ce n'est peut-être d'engraisser encore M. Bouygues et compagnie. D'ailleurs, comment peut-on réquisitionner des salariés de droit privé? Nous proposons à M. Nicolas Sarkozy de nationaliser le groupe Total, nationaliser tout ce qui concerne l'énergie. Au moins, les choses sont plus claires.
Et les banques aussi, nationaliser les banques.
La situation est trop grave. Il faut appeler à la grève générale.
Merci à tous et à toutes. C'était un reportage de Julien Brigaud à Grandpuits, la raffinerie de Grand Puy qui a été évacuée ce matin. Merci à tous. Lundi prochain, le 25 octobre, nous enregistrerons notre émission annuelle avec le monde diplomatique. Ce sera à la Java, comme d'habitude, au 105 rue du Faubourg du Temple, dans le 10e arrondissement de Paris, à partir de 18h. Pour vous inscrire, envoyez vos coordonnées, le nombre de places souhaitées, adresse suivante, le diplo à la Java tout attaché, @gmail.com. Le diplo à la Java @gmail.com. Vous retrouverez toutes les informations ainsi que les adresses. Vous lui demandez des adresses ou envoyez vos dons pour les caisses de grève. Eh bien, ces adresses, vous les trouverez sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. Et puis sur daniel.mermet@radiofrance.com, daniel.mermet@radiofrance.com, sur notre mail, vous pouvez nous adresser des photos et des vidéos de ce qui passe. On les mettra sur notre site là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Rémi Quincez et Lidvin Caron, Coyen Guyenne et Franck Adhérer ont réalisé cette émission modeste et géniale avec toute l'équipe de la Basse JSP qui s'est attelée au montage, assistée d'Agnès Lebot. Marina Touillez, quant à elle, attend vos messages sur le répondeur de la Basse JSP au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Bonjour, c'est Place à l'Initiative.
Christophe Faucon, président de l'association Hommes et Abeilles. Notre objectif, c'est la sauvegarde des abeilles en ville. Nous souhaitons associer les jeunes et leur expliquer une pédagogie. Grâce au trophée de la Fondation EDF Diversitaire, nous avons pu acquérir une trentaine de ruches et aujourd'hui former des jeunes sans emploi à l'apiculture urbaine.
Hommes et Abeilles fait partie des nombreuses associations à mobiliser des jeunes en faveur de la biodiversité. C'est là que les trophées des associations mettent en lumière leurs réalisations. Inscrivez votre association sur trophéefondation.edf.com.
Professionnels et entrepreneurs, bonjour. Je suis votre agent MMA et je suis là pour vous accompagner quand vous en avez besoin. Exemple, vous êtes travailleur indépendant et tout repose sur vos épaules. Comment assurer vos revenus si un problème de santé vous empêche de travailler? Zéro tracas. Avec le diagnostic prévoyance MMA, nous vous conseillons des solutions individuelles et collectives adaptées à votre situation dans un cadre fiscal avantageux. Chez MMA, nous avons les réponses. Posez-nous les questions. Rendez-vous dans une agence MMA pour un diagnostic gratuit de vos besoins en assurance. À bientôt. MMA. Offre soumise à condition.
À lundi, 15h pour la Basse, si j'y suis. Bonne fin de semaine à tous. Je vous laisse pour les infos avec Corinne Audouin. Salut.
Au Sénat, le texte sur la réforme des retraites devrait être voté d'ici ce soir. Les discussions vont plus vite depuis le recours par le gouvernement à la technique du vote bloqué. Tous les amendements ont été examinés, ne reste que les explications de vote. La date de la commission mixte paritaire est d'ailleurs déjà fixée, ce sera lundi matin à 9h. La commission doit concilier les deux versions du texte votées à l'Assemblée et au Sénat avant une adoption définitive de la loi, probablement mardi prochain. Dans l'ouest de la France, les manifestants changent de cible pour bloquer des entrepôts de grande surface près de Caen et à Lisieux. C'est la conséquence des actions menées par les forces de l'ordre pour débloquer les dépôts de carburant. Et selon Matignon, qui a réuni les acteurs du secteur, le retour à la normale dans les stations-service prendra encore plusieurs jours. François Fillon a demandé au préfet de superviser les ravitaillements de stations-service afin que les camions-citernes soient dirigés vers les zones qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire l'ouest, l'est de la France ainsi que la région parisienne. Alors que certains commencent à prendre la route des vacances, les stations d'autoroute seront ravitaillées en priorité. Justement, pendant les vacances, des lycéens, les étudiants prennent le relais. L'UNEF, le premier syndicat étudiant, appelle à une journée d'action partout en France, mardi prochain, avec notamment des rassemblements et des sit-in. Et la prochaine journée d'action nationale, décidée par les syndicats, ce sera jeudi prochain. La Cour d'appel de Paris rejette la demande d'annulation de l'enquête sur le groupe dit de Tarnac. Sous ce nom, 10 personnes sont soupçonnées d'avoir saboté des lignes TGV en novembre 2008, des faits qualifiés de terroristes. Les accusés demandaient l'annulation de plusieurs actes de procédure, selon eux entachés d'irrégularités. Demande rejetée donc par la chambre d'instruction de la Cour d'appel et la défense va se pourvoir en cassation. Les squatteurs de la place des Vosges vont être expulsés sans délai. C'est ce qu'a décidé également la Cour d'appel de Paris. Depuis un an, le collectif Jeudi Noir, qui lutte pour le droit au logement, occupe un hôtel particulier inhabité depuis 1966. Ils devront également verser 72 000 euros d'indemnité. Jeudi Noir affirme son intention de rester sur place malgré tout. De nouvelles voix demandent la libération du prix Nobel de la paix, Liu Xiaobo. L'archevêque sud-africain Desmond Tutu et l'ex-président tchèque Václav Havel signent un appel en ce sens dans le Washington Post. Tous deux lauréats du Nobel de la paix, ils exhortent le gouvernement chinois à saisir cette opportunité de tourner la page. Liu Xiaobo purge actuellement une peine de 11 ans de prison pour subversion. Il s'est fait désirer, mais finalement la star de l'équipe de foot britannique, Wayne Rooney, signe pour 5 ans de plus avec son club du Manchester United. Wayne Rooney avait été recruté par Manchester en 2004 à l'âge de 18 ans. Il y a deux jours, il avait dit vouloir quitter un club devenu trop peu ambitieux. C'est son entraîneur Alex Ferguson qui l'aurait convaincu de rester avec des arguments, dit-on, pas uniquement sportifs.
Ce soir, à 21h, France Inter vous invite à partir avec Stéphanie Duncan.
Je l'ai vu, Hitler, 10 jours avant son élection. Je l'ai rencontré dans l'ascenseur, j'habitais le même hôtel, écrit Georges Simenon en 1933. Simenon, Raymond Aron, Jean Genet, Christopher Isherwood, nous partirons ce soir avec ces écrivains qui, dans les années 30, voyagèrent dans l'Allemagne nazie. À ce soir, 21h.
France Inter présente Robert Plant. Goodbye. Don't cry. Tomorrow bring us the brand new day. En concert unique le 24 octobre au Palais des Sports. Retrouvez Robert Plant dans le programme musical de France Inter et sur franceinter.com.
France Inter. France Inter.
La différence.
À 16h04 sur France Inter, on retrouve Frédéric Lodéon, c'est Carrefour de l'Odéon.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Connaissez-vous cette histoire? Un quatuor excellent donne un concert, Salgavo par exemple, et à la fin, une dame assez fortunée arrive avec une enveloppe à la main et elle dit au premier violon « Voilà un petit quelque chose pour agrandir votre petit orchestre ». Et alors évidemment, tout le monde rit maintenant parce qu'on sait qu'un quatuor à cordes, c'est une forme en soi, et puis la symphonie, l'orchestre, tout ça, c'est autre chose. Bien que certains compositeurs, comme Gustav Mahler, aient transcrit parfois un quatuor à cordes avec plus d'instruments pour en faire une sorte de petite symphonie. En tout cas, la symphonie, symphonia, c'est souvent un début pour un opéra. C'est une introduction, une intro, comme on dit aujourd'hui, instrumentale. Et c'est aussi un début pour un passage de cantate ou d'oratorio. Par exemple, dans la cantate pour le premier dimanche après la Trinité de Jean-Sébastien Bach, il y a une symphonia, c'est le début de la deuxième partie. Thank you. Jean-Sébastien Bach, cantate pour le premier dimanche après la Trinité, Symphonia, c'est le début de la deuxième partie, interprétée par The English Baroque Soloists, dirigée par John Eliot Gardiner. Bien, les fils de Bach, certains, ont écrit des symphonies aussi, par exemple le premier, le préféré, Wilhelm Friedman. Et la symphonia, là, s'est un petit peu développée, parce qu'elle a commencé à avoir plusieurs mouvements, par exemple trois mouvements. C'est le cas dans une symphonie, ou une symphonia en ré majeur de Wilhelm Friedman, Vivace.